commence un livre dès la première page. Je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passé, présent et parfois même futur. Un livre ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup.
Bonjour. Avec L'Oiseau des Lires, nous sommes là pour justement vous présenter des livres et vous guider dans toute la production. Aujourd'hui, comme Gwen vous l'avait dit la fois dernière, il vous a parlé, lui, des dévoreurs de livres, des prix littéraires. Je vais continuer, mais d'une façon un peu différente. Les prix littéraires, c'est pour faire entrer les enfants en lecture, mais aussi les faire réfléchir sur le monde qui nous entoure. Donc, il y a deux romans cette année, un qui fait réfléchir, qui fait entrer en littérature et qui fait réfléchir. Un roman de Kochka, qui a souvent écrit justement pour nous faire un petit peu réfléchir. Et ce roman, cette année, s'appelle « Le voyage de Fatim Zahra ». C'est un roman qui nous raconte une histoire vraie, l'histoire d'une jeune Marocaine dont la sœur a épousé un Français et cette sœur attend un bébé. Et les parents et de Fatim Zahra et elle-même font les démarches pour quitter le Maroc et venir, enfin quitter momentanément le Maroc et venir voir ce petit être qui vient de venir au monde. Avoir des visas pour venir en France, c'est pas si facile que ça. Et quand enfin ils arrivent, le bébé a déjà quelques mois et c'est au milieu de l'année scolaire. Fatim Zahra va s'inscrire au collège pour ne pas perdre de temps. Elle va s'inscrire au collège et puis au début, elle a un très bon niveau, donc elle ne dit pas qu'elle parle très très peu français, qu'elle le comprend à peine. Elle répond oui, elle fait des signes de tête et puis finalement un jour un professeur se rend compte qu'elle ne comprend ou qu'elle comprend très très peu le français. Mais la façon dont ils vont accueillir Fatim Zahra, la façon dont ils vont s'occuper d'elle, fait qu'un jour, elle rentre chez elle en disant. Donc le 24 septembre au soir, alors que sa mère ne la guette plus à la fenêtre, Fatim Zahra rentre en courant, comme si tous les lions de l'Atlas avaient ressuscité et qu'elle les avait aux trousses. Elle n'accepte pas l'idée que ce soit déjà fini. Elle a encore 1000 choses à apprendre ici. Et au moins, on ne la frappe pas quand elle ne sait pas et quand elle n'apprend pas ses leçons. Personne n'en fait une montagne. Et les professeurs lui parlent plus doucement qu'aux autres en espérant qu'elle comprendra. Et quelquefois, comme par magie, elle comprend. Parce qu'à force d'entendre parler français, certains mots ne ricochent plus comme des cailloux sur son front fermé, mais entrent parfois dans son cerveau comme des lucioles ou des étincelles, éclairant sa nuit petit à petit. Pour l'instant, c'est encore très noir, jusqu'à l'éclairage final. Et ce soir, trois professeurs sont venus la saluer, dont M. Franck. Et ça, c'était vraiment triste. Il lui a dit gentiment « Au revoir Fatima, merci de ta gentille visite et bon retour dans ton pays. » Et au cas où elle ne comprendrait pas, il a joint le geste au mot en lui touchant doucement l'épaule. Et Fatim Zahra a compris. Ça lui a fait vraiment plaisir. Elle sonne à la porte comme une folle. « Maman, je ne veux pas rentrer. Je dois faire l'année ici. Je suis mineure. » Alors je peux rester, je ne serai pas sans papier. Kanza reste pétrifiée et Aya est déboussolée. Mais par chance, Pierre est là et Aya lui traduit. « Quel reste ? » déclare-t-il tout de suite. « Nous pouvons la recevoir. » Aya traduit encore, mais Kanza bondit. « Il n'en est pas question, ce n'était pas du tout prévu. On rentre toutes les deux demain et puis de toute façon, son père ne voudra pas. « On n'a qu'à l'appeler, on ne sait jamais, » répond vivement Fatim Zahra. « D'accord. » « On l'appellera, » dit Kanza, « tout à l'heure quand il rentrera. »« Mais quoi, » ajoute-t-elle, « ça fait 42 ans qu'on se côtoie, tu crois que je ne le connais pas ?» Elle arrive à le joindre une heure plus tard et en criant l'informe de la situation. Au-delà de l'Espagne et du détroit de Gibraltar, à l'autre bout du fil, Mohamed reste très calme. « Passe-la-moi, » dit-il, « et laisse-moi lui parler. » Avec un air satisfait, Kanza tend le combiné à sa fille d'un air de dire « Tu vas voir ce qui va tomber !» Fatim Zahra avance le bras. Abibati, commence son père, avec une certaine gravité. Ta demande n'est pas simple. As-tu suffisamment réfléchi? Un an, ce n'est pas un mois, et nous ne serons pas là. Es-tu sûr de ton choix? Fatim Zahra acquiesce. Te rends-tu compte, poursuit Mohamed, que ça va être difficile et que tu risques de pleurer? Le découragement et la solitude vont souvent t'accompagner. Je sais, papa. Tu sais aussi, reprend Mohamed, que celui qui désire le miel doit supporter la piqûre des abeilles. Ce qu'on veut, il faut le gagner. Oui, papa. Et plus on vise haut, et plus c'est cher à payer. Oui, papa. Bon, dit Mohamed. Alors je te souhaite du courage. Mon cœur sera à chaque instant près de toi. Tu vas beaucoup me manquer. D'autant que je sais que tu vas vivre des moments très compliqués. Et maintenant, passe-moi ta mère que je lui parle. Pour elle aussi, ça va être très difficile à gérer. Et Fatim Zahra va rester. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle ne pourra pas passer ses vacances chez elle parce que si elle part, elle devra rester au Maroc. Le visa, il est juste pour l'année. Fatim Zahra est toujours au lycée. Elle est dans la même classe que la fille de Koshka. Elle n'est toujours pas retournée dans son pays. Elle pourra y retourner juste à la fin de ses études. Et cette fois, je vais vous parler d'un roman de Jean-Christophe Tixier, un auteur assez engagé qui a eu le prix des Dévoreurs l'année dernière pour le niveau 5e. Et cette fois, il nous fait vivre une traversée comme ce qui se passe actuellement. Donc, la tempête. Quand l'embarcation se cabra sur la vague, la coque émit un craquement sinistre. Dans l'instant, les mugissements du vent dispersèrent au loin les cris de terreur. La femme à côté de San s'agrippa à sa cuisse, planta ses ongles dans sa chair. Malgré la douleur, il ne bougea pas, serra plus fort encore ses mains sur le gouvernail. Depuis plusieurs heures déjà, Sam ne se battait plus pour suivre un cap, mais seulement pour maintenir le bateau à flot. Des vagues toujours plus hautes les assaillaient sans relâche de toutes parts. À intervalles réguliers, des gerbes d'eau rageuses jaillissaient, emportant ce qui n'était pas solidement fixé. D'un mouvement vif de la tête, Sam chassa l'eau qui brouillait sa vue, puis fixa la proue où se cramponnaient les plus costauds. Si l'un d'eux lâchait prise, l'embarcation se dresserait sur la prochaine vague et se retournerait. Soudain, un paquet de mer frappa la coque par le côté, la fit rouler sur la droite. Sam n'osa pas fermer les yeux, vit l'écume à portée de main. Une fraction de seconde, l'embarcation hésita avant de se remettre dans l'axe. Ce n'était pas pour cette fois. Il balaya la proue du regard. Comment être certain que personne n'était passé par-dessus bord? Pour s'en assurer, il se retourna, mais les eaux noires avaient déjà avalé leur sillage. Le bateau tanguait de plus en plus fort. Chaque vague, surgie de la nuit, le soulevait comme une main puissante pour le jeter violemment contre la suivante. Combien étaient-ils entassés là? Plus d'une centaine. Quand le navire avait quitté la plage, Sam avait approximativement compté leur nombre, tant la surcharge l'effrayait. Des hommes, des femmes, des enfants. Trop d'enfants, marmonna Sam pour lui-même. Des bébés aussi, dont un qui ne devait pas avoir plus de 2 jours. Il fouilla la nuit à la recherche du nourrisson. Se dit qu'à 7 heures, s'il n'était pas mort étouffé contre sa mère, il devait être noyé. Aussitôt, il s'en voulut d'avoir osé penser une telle horreur. Et pourtant, la réalité était là. Perdu au milieu d'une mer déchaînée, il n'était plus vraiment dans la vie. La pluie se remit à tomber, plus glacée encore que l'eau de mer. Avec le vent qui soufflait en bourrasque, elle cinglait les visages et les corps à moitié nus. Au fond de la coque, le niveau de l'eau montait. « N'arrêtez pas d'écoper, plus vite !» hurla Sam. Avec le creux des mains ou une moitié de bouteille en plastique pour les mieux outiller, il menait un combat que beaucoup jugeaient perdu d'avance. Leur lutte était dérisoire, tant les forces étaient inégales. Sam se cramponna au gouvernail. Par moments, des éclairs déchiraient le ciel, révélant l'horreur du chaos qui les cernait. Une femme croisa son regard, lui adressa une supplique muette. Pour la rassurer, il tenta de lui sourire. Seule une grimace déforma son visage. Par chance, celle-ci fut avalée par l'obscurité. Sam était gagné par la peur et le doute. Que nous arrivera-t-il cette fois quand tout cela sera terminé? À cette question qui l'obsédait, il n'avait pas de réponse, et encore moins l'idée sur ce qui se cachait derrière le mot « terminé ». Malgré ses 17 ans, on lui avait confié la barre, et ce poste lui conférait aux yeux de certains un statut de demi-dieu. Mais que pouvaient-ils face à ces vagues qui se dressaient devant eux, telles des murailles, les propulser en l'air avant qu'ils ne basculent dans des eaux toujours plus profondes, se demandant lequel finirait par les avaler. D'heure en heure, l'espoir désertait le bateau. Sam entendit un homme hurler une prière, aussitôt reprise par d'autres. Ils imploraient le ciel, s'en remettaient aux ancêtres pour les tirer de cet enfer. Soudain, un cri déchirant jaillit à l'avant. « Ma petite fille, ma petite fille !» Des hommes se redressèrent pour tenter de percer la nuit du regard. D'autres, penchés par-dessus bord, fouillaient l'eau de leurs bras, sans succès. « ma petite fille !» hurla de nouveau sa mère. Une seconde, Sam fut tenté de pousser par le gouvernail pour que le bateau vire à bâbord, puis fasse demi-tour, mais une telle manœuvre les placerait en travers du courant et les ferait chavirer. Aussi, malgré le désespoir qui lui mordait le cœur, il garda le cap. Soudain, une vague plus puissante encore souleva le bateau. La proue se dressa vers le ciel déchaîné, sembla s'envoler. Dans un rugissement strident, l'hélice du moteur quitta l'eau. L'instant d'après, il n'y eut plus de haut ni de bas. Durant de longues secondes, la coque resta suspendue entre la mer et ciel, avant de retrouver le contact de l'eau par l'arrière. Sous la violence du choc, elle se disloqua et chacun lâcha prise. Les corps furent projetés les uns sur les autres, dans un balai macabre. Sam s'enfonça profondément dans l'eau glacée, quittant le tumulte de la tempête pour un monde terrifiant de silence. Donc ils vont chavirer, Sam va survivre, va aider beaucoup des survivants à se grimper sur la coque retournée. Il va surtout sauver une petite fille et cette enfant sauvée sera pour lui un petit peu ce qui va lui donner envie de se battre, d'aider. Ils vont dériver pendant plusieurs jours avant, au loin, d'apercevoir un bateau qui peut-être les recueillera, peut-être les renverra chez eux, peut-être les arrêtera, les enfermera. On a ce récit, le récit des survivants, sur le bateau, la coque qui essaie de survivre, et d'autres chapitres, un chapitre sur deux, qui nous plonge dans ce qu'a vécu Sam avant d'être sur ce bateau, pourquoi il a fui, ce qu'il a rencontré lors de sa fuite, l'enfermement, l'argent à verser, toujours plus, le travail obligé, l'horreur, pourquoi il a fui et comment il est arrivé sur ce bateau. Ce n'est pas un roman, comme on pourrait le dire, de circonstances. Il est paru en juin. Et le temps de l'écriture, le temps de la parution, c'est simplement un roman, voilà, qui arrive au bon moment. J'aurais aussi voulu vous parler d'Hakim Cour, mais je pense que je n'aurai pas le temps. Pour cela, il faudra aller sur le blog de L'Oiseau des Lyres, puisque nous en avons beaucoup parlé dans le prix Corzac l'an dernier. Et je pense que pour terminer, je suis désolée pour la lecture aujourd'hui, mais j'ai envie de vous lire un poème de Laurent Godet, un poème inédit qui est paru il y a 15 jours dans le journal Le 1, qui chaque semaine nous donne un sujet différent vu par des auteurs, des spécialistes. Celui-ci était sur les réfugiés. Donc ce poème s'appelle « Regardez-les ». Regardez-les. Ces hommes et ces femmes qui marchent dans la nuit. Ils avancent en colonne sur une route qui leur esquinte la vie. Ils ont le dos voûté par la peur d'être pris et dans leur tête, toujours, le brouhaha des pays incendiés. Ils n'ont pas mis encore assez de distance entre eux et la terreur. Ils entendent encore les coups frappés à leur porte, se souviennent des sursauts dans la nuit. Regardez-les, colonne fragile d'hommes et de femmes qui avancent aux aguets. Ils savent que tout est danger. Les minutes passent, mais les routes sont longues. Les heures sont des jours et les jours des semaines. Les rapaces les épient, nombreux, et leur tombent dessus au carrefour. Ils les dépouillent de leurs nippes, leur soutirent leurs derniers billets. Ils leur disent « encore » et ils donnent encore. Ils leur disent « plus » et ils lèvent leurs yeux, ne sachant plus que donner. Misère et guenilles, enfants accrochés aux bras qui refusent de parler, vieux parents la ralentissant l'allure, qui laissent traîner derrière eux les mots d'une langue qu'ils seront contraints d'oublier. Ils avancent malgré tout, persévèrent parce qu'ils sont têtus. Et un jour enfin, dans une gare, sur une grève, au bord d'une de nos routes, ils apparaissent. Honte à eux, à ceux qui ne voient que guenilles. Regardez bien, ils portent la lumière de ceux qui luttent pour leur vie. Et les dieux, s'il en existe encore, les habitent. Alors dans la nuit, d'un coup, il apparaît que nous avons de la chance si c'est vers nous qu'ils avancent. La colonne s'approche, et ce qu'elle désigne en silence, c'est l'endroit où la vie vaut d'être vécue. Il y a des mots que nous apprendrons de leur bouche, des joies que nous trouverons dans leurs yeux. Regardez-les, ils ne nous prennent rien. Lorsqu'ils ouvrent les mains, ce n'est pas pour supplier, c'est pour nous offrir le rêve d'Europe que nous avons oublié. Et n'oubliez pas, les livres s'empruntent en bibliothèque et s'achètent en librairie. À la semaine prochaine, à dans 15 jours plutôt.
Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit. Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit.